Rémy de Gourmont. Conversation du soir. L'une était une jeune fille et une autre jeune femme, et lui venait dans la maison faire la cour à la jeune fille, mais il aimait bien aussi la jeune femme. Ida avait épousé un gentilhomme qui s'occupait à dresser des chevaux pour les courses. Il revêtait un habit rouge, sonnait de la trompe mieux qu'un piqueur, écoutait la conversation des palefreniers parce qu'elle est instructive. Sa femme lui servait peu, si ce n'est de décor et de parfum. Parfois, il l'entourait de regards attendris, la flattait ainsi qu'une pouliche, et lui donnait à manger dans le creux de sa main un diamant ou un rang de perles. Parfois aussi, il la respirait en fermant les yeux, après l'avoir vaporisé de foin nouvellement coupé, qu'il appelait dans sa langue New Mount Handy. De tout cela, Ida était fort satisfaite, et il ne lui manquait rien, aucun plaisir essentiel. Les plaisirs essentiels pour Ida étaient se lever à midi, mettre de belles robes, faire de la musique, et le soir, aux lumières, parer son torse pur de plus de joyaux que n'emportait Aline, reine de Joconde. Elle savait qu'il est des êtres nommés amants, et qui ont pour les femmes le goût que son mari avait pour les chevaux, mais elle n'eut jamais envié d'attacher en sa personne, et ses grands scarabées, à son avis, étaient agréables qu'en troupe, quand ils évoquaient avec discrétion dans son salon bien tenu, et lorsqu'on lui disait que de tels insectes inspirent souvent à des femmes des passions folles, elle riait si fort que ses amants émus faisaient le bruit d'une rivière qui se brise sur des pierres. Pourtant, le scarabée qui courtisait sa sœur, Moira, n'était pas trop bête ni trop laid. Même seul et vu de près, il ne déplaisait pas à Moira, ni à Moira, ni à Ida. Moira voulait bien l'épouser, et Ida voulait bien être aimable et ne pas décourager le plaisir de ses enfants, le plaisir de se marier, de faire comme tout le monde. Il s'appelait Donald et sa voix, un peu charmante, était douce, de celle qu'on entend le soir dans les gorges pavées des montagnes. Son geste enveloppant suggérait l'abandon, ne craignant pas, rassuré par le bleu pâle de ses yeux et le rose doux de ses joues, les femmes allaient à lui comme une sœur. Et s'il disait son adresse à manier la rame, elle s'affligeait d'une cirrure d'exercice pour une grâce si adolescente. Assise côte à côte au piano, Ida et Moira déliraient de joie. Sainte d'un multicolore réseau d'harmonie qui les séparait du reste du monde, elle s'enivrait sans honte, troublée mais insatisfaite, cherchant l'extase, mais n'arrivant qu'à un délicieux énervement, à cause sans doute du discord de leurs désirs. Moira jouait pour le plaisir de bruits agréables, pour l'excès de vibrations que la musique importe dans les cellules cérébrales, pour l'intensité et l'activité que le rythme donne aux battements du cœur et à la circulation du sang. Et Ida jouait pour brouer un accompagnement à ses rêves, et pendant que la musique se dessinait en vives arabesques devant ses yeux éblouis, elle perdait quasiment la conscience de son être. Allégée et simplifiée, elle sortait d'elle-même, elle montait, mais pour redescendre bientôt, surprise et un peu suffoquée. Cette illusion était plus sûre encore lorsque, au lieu de jouer elle-même, elle écoutait sa sœur qui avait le génie des interprétations rythmiques. Donald entra. Sans l'avoir vu ni entendu, elles eurent la divination qu'il était là et, charmant en la spontanéité de leur résignation, elles se levèrent, laissant une phrase inachevée, et s'avancèrent pour l'accueillir. Donald baisa la main d'Ida et le front de Maura. Il apportait toujours des fleurs, non pas certes des bouquets, mais de vraies fleurs libres sur leur tige intacte. Il en apportait trois seulement, choisies entre les plus parfaites et les plus pures, d'immaculées roses blanches, couleur de neige qui tombe, de fragiles et somptueux magnolias empreints de sang, d'une seule marque de sang au centre même de leur beauté, et qui semblaient des sacrés cœurs ou, comme disait Maura, de fines et blanches dominicaines qui ont taché d'amour et de pourpre leur Sainte Vierge en buvant au calice de la Passion. Ils savaient trouver de simples violettes d'un azur si profond et si délicat que les chimères se réjouiraient d'élever de ses yeux vers l'infini et des cyclamènes d'un rose si charnel et si vivant que leur sourire impressionnant impressionnait comme un baiser. Et ce jour-là, il avait à la main trois divines papequerettes, trois astres de rêve, trois symboliques soleils d'or étoilés d'argent lunaire, fleurs de résurrection. Maura et Ida mirent une chacune à leur corsage, et comme toujours, la troisième fut déposée dans un verre de Venise, irisée d'espoir aux pieds de l'inconnu, aux pieds de celle qui allait devenir, aux pieds de la femme que l'amour était en train de créer et de modeler dans l'ombre. On causa de choses futiles, exprès pour ne livrer que peu à peu, avec modération et avec pudeur, le nu de ses âmes à l'amoureuse curiosité de l'âme inquiète et attentive. Ensuite, Ida s'informa si les émeraudes étaient saillantes à son teint, si on pouvait les mêler aux perles et aux diamants, si leur vert un peu de prairie n'effarait pas son absolu la blancheur des épaules. On décida qu'une peau très candide et veinée de bleu s'accommoderait mal des émeraudes, mais elle pouvait agréer aux chairs un peu dorées. « Eh bien, je suis contente que vous permettiez cela, Donald. Je pourrais donc mettre mon collier d'émeraude, car je suis doré comme une idole. » Et Ida, relevant sa manche, fit miroiter sur sa peau de brune les joyaux smaragdins du dernier présent de son mari. Ensuite, Maura s'informa de l'accord imposé par une robe violette. Il fallait évidemment des doublures et des retouches au troussi soufre et, comme bijoux, peut-être des opales, peut-être des perles teintées. Maura compara cet accord à celui-ci, tenez. Et elle trouvait sur le piano un accord clairement soufre et violet, mais d'un soufre un peu vif et d'un violet un peu sombre. Il faudrait la harpe, dit-elle. Mais elle chercha encore, et bientôt ce fut une étrange improvisation en rythme brisé où passaient, éclatantes ou mourantes, apaisées ou exaltées, toutes les nuances du violon, violet et brisé en arabesque, toutes les nuances du jaune. Elle joua longtemps, ou peut-être une heure, sans s'arrêter, sans prendre garde à la tombante nuit, ni au trouble divin qui s'épandait par ses doigts dans l'air. Ida et Donald étaient assis sur le divan. D'abord, en écoutant que d'une oreille la fantaisie de Maura, ils avaient continué leur causerie, mais paroles s'en allèrent. Sans voix, il songeait et il finissait, comme l'air lui-même, empli de captieuses sonorités et de vibrantes ondes. Un espace très étroit les séparait. Un sursaut le combla. Donald, excité, s'était incliné à droite. Ida, oppressée, s'était inclinée à gauche. Leurs épaules d'abord, puis leurs genoux se touchèrent, puis leurs mains se trouvèrent. Et un double courant de fluide charnel le pénétrait, les amollissait et alternativement activait leur inconscient en vie. Les fleurs, les émeraudes, les épaules, le bras nu montré, et le corsage soufre et violet, emprisonnaient en rêve le beau buste de Mora. Tout cela et les conseils de la musique et la tombante nuit avaient érigé vers le paysage sensuel la promenade de leurs rêves, si bien que, sans le savoir, se croyant toujours dans le monde du désir, ignorant de leur tangible réalité, plongés dans l'incertitude du songe, insoupçonneux de la véracité de leurs actes, ils se baisèrent doucement sur la bouche. Le prélude fut impératif. Ida se renversa, les yeux clos, comme couchée sur un lit de nuages, et elle reçut Donald dans ses bras, avec une grâce toute nuptiale. Quand ils revinrent à eux, ils n'eurent pas à rougir. Ils ne savaient pas qu'ils avaient fait, et même ils ne le surent jamais. Le souvenir leur resta seulement de minutes exquises, d'un voyage dans le ciel, d'un plaisir à la fois aigu et doux, infiniment pur et infiniment surhumain. Pourtant, quand Ida rajusta instinctivement sa toilette, elle s'aperçut que la pâquerette penchait à ce corsage, tout écrasé, sa tête d'or étoilée d'argent. Alors elle alla prendre celle qui avait été déposée au pied de l'inconnu, et elle la piqua sur son sein, sur le sein de la femme qui était devenue de sa femme que l'amour venait de créer et de modeler dans l'ombre. À ce moment, Mora, qui jouait toujours, sentit un terrible frisson passer dans ses moelles.